Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Je vais commencer par un sujet bien polémique. Ce genre de sujet, généralement, que j'ai tendance à traiter, vous savez, dans les 5 dernières minutes de l'émission, et vous m'écrivez « Prenez plus de temps, mettez pas, ne reléguez pas ce sujet à la fin ». Alors voilà, faut-il taxer les super profits ? Et là, en l'occurrence, on a deux entreprises en ligne de mire, Total Énergie et CMA-CGM, liées au transport maritime et au fret. Le pouvoir d'achat, est-ce que Macron est en train de cramer la caisse ? En tout cas, tout va bien, nous disait hier Bruno Le Maire, on a 2,5% de croissance, ça va bien se passer, même si le même Bruno Le Maire, 48 heures avant, parlait d'une cote d'alerte sur les finances publiques. Bon, on va essayer de retrouver une opti dans tout ça. Le mea culpa des banquiers centraux sur l'inflation. Ils sont réunis à Sintra, à côté de Lisbonne, au Portugal. On s'est trompé. On n'a rien vu. Un peu gênant quand même, hein, quand c'est le cœur de votre mission et que justement vous êtes censé avoir a priori une expertise qui dépasse le niveau moyen. Je ne sais pas si on peut parler de faillite des experts, mais ce qui m'a frappé moi depuis un an et demi sur cette grande question économique, c'est que beaucoup, la plupart des économistes pensaient que cette inflation serait temporaire, tandis que la quasi-majorité des chefs d'entreprise qui passent dans ce studio nous ont très vite dit « vous allez voir, ça va durer plus longtemps que prévu ». Et puis on parlera des obligations, les obligations d'entreprise comme les obligations souveraines. C'est une chute de 13% depuis le début de l'année. On n'a jamais vu ça depuis 40 ans, alors faut-il parler de krach obligataire ou pas ? En tout cas, rarement, très rarement, on a vu les obligations et les actions suivre la même courbe. Je pense que la dernière fois, ça devait être en 1994. Isabelle Job-Basile, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, bonjour. Directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. Christian Deboissieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, qui est donc partenaire de cette émission. Et nous nous retrouverons dans quelques jours à Aix-en-Provence. Vous avez coécrit un livre de contribution, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui, ou la mondialisation en question, chez Laurent Dumini, l'éditeur. Augustin Landier, bonjour.
Bonjour.
Professeur à HEC et co-auteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels. Matériel, publié chez Flammarion. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui réalisent des profits totalement historiques. Je n'ai pas forcément envie de dire super profit, parce qu'il y a une sorte de jugement de valeur, ou extravagant. Ou Total Énergie, au premier trimestre 2022, a dégagé 9 milliards d'euros de bénéfices. Les années où il faisait 15, c'était déjà impressionnant. Et si on ramène cette dynamique sur un an, ça ferait 36 milliards. Engie a dégagé 5 milliards de profits au premier trimestre. L'an dernier, ils avaient fait 4. Donc déjà, en 3 mois, ils ont fait 1 milliard de plus. Et CMA-CGM, le grand transporteur, je crois, deuxième ou troisième mondial, en est à 7 milliards de profits au premier trimestre. Ils avaient réalisé 18 milliards de profits en 2021. Qui commence ? Augustin. Si on considère que c'est pas le talent de Total qui fait gagner autant d'argent, c'est le prix du baril. C'est pas le talent de CMA-CGM, c'est juste une inflation incroyable du transport maritime. Mm-hmm. Donc moi, si je suis langue de vipère, je vais dire c'est une rente. Mm-hmm. Et la rente, ça se taxe. Bon, qu'en pensez-vous ?
Ouais, alors pourquoi c'est pas forcément une bonne idée ? Déjà, juste pour rappeler un peu le pour, le contre. Donc le contre, taxer les profits exceptionnels, c'est que l'énergie, c'est très cyclique par nature. Il y a des bonnes années, il y a des très mauvaises années. Le prix du pétrole brut, il n'est pas à un niveau délirant en un sens. Il est au niveau où il était, je crois, en 2006, quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas sur des niveaux historiquement complètement délirants. C'est juste que ça a remonté très vite. Donc, les gens s'y attendaient pas. Et ça crée un choc.
Puis l'euro est faible face au dollar, ce qui fait que ça.
Le problème, c'est qu'on a. Je crois qu'il y a un mea culpa à faire et des changements de politique à faire. C'est qu'on a beaucoup encouragé ces entreprises à ne pas investir. On s'est dit, il faut vraiment les convaincre que le pétrole, c'est fini. Etc. Là, non, c'est pas fini. Donc là, on est embêté. Mais les taxer massivement, c'est certainement pas s'assurer qu'elles continuent d'investir, qu'elles acceptent de produire à des tarifs plus élevés parce que là, il y a vraiment un besoin, etc. Donc non, moi, je pense que c'est distortif. Faut pas se raconter d'histoire. C'est pas neutre de faire une taxe de ce type-là. Après, je pense qu'il faut se caler sur. Si tous les autres le font, en un sens, ça devient
Italie
plus difficile de le
fait,
faire.
Grande-Bretagne le fait, Hongrie, l'Allemagne y réfléchit. Alors, est-ce que tout le monde prend ses décisions pour des raisons de messages politiques ?
En tout cas, je pense que c'est important de réaliser que c'est distortif et que ça ne va pas faciliter le fait d'accélérer. On voit bien que là, on a des problèmes d'infrastructure. Donc, si on veut accélérer l'arrivée des terminaux qui sont capables de réceptionner du gaz liquide, etc., ce n'est pas le genre de message qui va accélérer ce type d'investissement dont les entreprises savent savent que c'est au fond des choses assez temporaires et que voilà, ça va aider sur les 5 prochaines années ou 10 prochaines années, mais pas plus loin. Donc il faut vraiment les encourager, au contraire, à prendre au sérieux le signal prix.
La Grande-Bretagne espère quand même près de 6 milliards de recettes en taxant à 25%. Un avis après, là-dessus, oui, Isabelle de Basile.
Mais après, du coup, je suis assez d'accord, c'est du coup, il faudrait peut-être regarder les bénéfices non réinvestis.
Là, on est sur quelque chose de plus constructif.
Voilà, évidemment. Un petit peu plus constructif, c'est-à-dire de pas vraiment être dans la punition de quelque chose sur lequel ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mais en tout cas, on sait que ces secteurs, que ce soit l'énergie, le transport, ont des enjeux massifs de transformation, de transition, et ils investissent et ils doivent investir énormément. Donc il faut effectivement encourager ce type d'investissement et donc faire en sorte qu'ils réinvestissent, même si c'est des surprofits, mais qu'ils réinvestissent dans la transition.
Il y en a un qui a payé déjà, c'est EDF. On leur a bien tordu le bras là, sur les tarifs régulés de l'énergie nucléaire. Pas combien ça va leur coûter sur l'année, mais un bon 7-8 milliards d'euros. Même constat, Christian de Boissieu, vous allez vous ranger du côté des...
Moi, je suis... Vous allez
des bien-pensants qui veulent
comme
taxer.
Comme d'habitude, assez modéré. Il y a des gagnants et des perdants dans toute évolution économique, et c'est accentué à travers ce que nous vivons en ce moment, et l'explosion des prix énergétiques, alimentaires, etc. Je suis... comme mes petits camarades d'avis de séparer les bénéfices réinvestis de ceux qui ne sont pas réinvestis, parce qu'il faut encourager l'investissement. J'ajoute un point, c'est que c'est difficile aussi de pas du tout parler de la question des salaires quand on aborde ce sujet. Parce que au fond, on peut dire, les entreprises qui font des profits, des super profits, il y a du grain à moudre pour augmenter les salaires un peu plus qu'ailleurs. Donc, le problème qui est posé, c'est le partage de la valeur ajoutée. Salaire profit au niveau de l'entreprise. Et je termine en disant que je suis pas sûr que la fiscalité soit le bon instrument ici, mais il faut quand même aussi éviter de désigner du doigt des entreprises. Moi j'ai vécu dans des pays, je me souviens certains pays africains dans lesquels on désignait, c'était un autre sujet, mais on désignait telle entreprise qui avait fait des super profits, avec derrière des opérations de méfiance, etc. C'est toujours compliqué de montrer du doigt les entreprises. Donc il faut arriver à traiter le sujet plus par des incitations que par des punitions.
Évidemment. C'est un grand classique, hein, de toute façon. Je ferme le banc. Je reste avec vous, Christian de Boissieu. La cote d'alerte sur les finances publiques, et en même temps, le même ministre nous dit on fait 2,5% de croissance. On va faire 2,5% en 2022, c'est plutôt bien, c'est plutôt rassurant. Et les fondamentaux de l'économie sont bons. C'est un peu illisible, ce message. Et puis, fondamentalement, quand j'entends que les fondamentaux de notre économie sont solides, avec 100 milliards de déficit du commerce extérieur, j'ai un peu de mal à être convaincu.
Écoutez, d'abord... l'hypothèse de Monsieur le maire et de Bercy, c'est qu'on va faire 2,5% oui. En moyenne cette année. La Banque de France est un peu plus bas, 2,3%, si je ne m'abuse. Donc c'est l'ordre de grandeur. Je voudrais faire remarquer la chose suivante. Sur ces chiffres, vous avez quand même encore un effet de rattrapage post-Covid. Sur les à peu près 7% de l'année dernière, 2021, il y avait un gros effet de rattrapage. Là, je veux dire... ce qui compte quand même, c'est ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire le fonds de croissance de notre économie, compte tenu des facteurs d'offres, et ce qu'on appelle la croissance potentielle, en France, bon, il y a des débats pour savoir à quel niveau, mais on est peut-être entre 1 et 1,5% par an. Et d'ailleurs, les prévisions, vous l'avez dit comme moi, les prévisions 2023 sont en baisse par rapport aux prévisions 2022, c'est-à-dire, il y a l'hypothèse qu'on reviendrait progressivement en France comme ailleurs, vers la croissance potentielle. C'est ma première remarque. Pas de cocorico sur le 2,5. Il y a beaucoup de rattrapage. Ça n'empêchera pas peut-être d'avoir une récession, on verra, au premier semestre. Mais là, on raisonne en moyenne sur l'ensemble de l'année. Bon, deuxième remarque sur les finances publiques. On est quand même dans un débat où il est très difficile de séparer dans le temps ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on appelle demain. Aujourd'hui, on est encore clairement dans le quoi qu'il en coûte. C'est encore le quoi qu'il en coûte une queue de quoi qu'il en coûte sanitaire et ce que j'appelle le quoi qu'il en coûte ukrainien, c'est-à-dire les mesures qui sont prises pour maintenir le pouvoir d'achat et qui pèsent directement sur les finances publiques. Le chiffrage qui a été fait, c'est ces mesures pouvoir d'achat, c'est à peu près 50 milliards en année pleine. compris.
Vous vous rendez compte, 50 milliards de subventions des aléas de la vie de tous les jours.
On a les plaies. Et le, ce que j'appelle le demain, ben je sais, ça, c'est pas demain au sens calendaire, mais c'est quand même la perspective qu'il faut déjà avoir, c'est qu'un jour, il faudra quand même reprendre la maîtrise de tout ça, c'est-à-dire des finances publiques. Alors, M. Le Maire prévoit un déficit public pour la France de 5% en 2022. On va voir, on va voir. Moi, je suis un tout petit peu sceptique sur ce chiffre. Avec l'augmentation des taux d'intérêt et donc des charges d'intérêt de la dette publique, j'ai vu que l'augmentation, rien que l'augmentation prévue pour 2022 sur les charges d'intérêt, c'est plus 13 milliards d'euros sous des hypothèses de taux d'intérêt qui sont peut-être revues à la hausse. À la hausse. Donc,
mais c'est l'obligation indexée à l'inflation.
Voilà. Bon, alors, pas, mais, et pas, le reste, on va voir.
Sur les OATI.
Sur les
on va voir.
Mais... Ça reste une charge d'intérêt.
Non, ça reste une charge. Non, mais ça reste. Mais c'est pas la remontée des taux qu'on voit aujourd'hui. Là, pour le coup, ça prendra un petit peu plus de temps avant que ça nous coûte.
L'obligation indexée, c'est pas 100% de la dette publique.
Non, c'est 250 milliards.
Non, on va pas rentrer dans les chiffres, mais il y a les autres qui sont.
Non, mais je suis d'accord.
Bon, donc, et puis il y a du court terme qui va tout de suite prendre dans la figure la montée des taux d'intérêt dans la dette publique comme dans la dette privée. Donc je termine en disant que on laisse filer et en même temps on dit il faut commencer à réfléchir à la maîtrise de tout ça. Tout ça est un peu contradictoire.
Les fondamentaux, ils sont vraiment solides selon vous, Isabelle Jobe-Basile ? Moi, j'ai quand même du mal à me dire que les fondamentaux sont solides aujourd'hui.
Alors, non, mais si on regarde quand même... Le 2,5, déjà, ça a été dit, on a quand même un acquis de croissance, donc ce qui est lié au rattrapage qu'on a eu en 2021.
Il faut rappeler que c'est lié au rattrapage, oui.
Voilà, on a un acquis de croissance de 1,9. Donc ça veut dire, si on regarde en glissement annuel, en fin d'année, notre croissance, elle sera plutôt autour de 0,5, 0,6. Enfin, on sera à peu près dans ces eaux-là. Donc ça veut dire qu'on on aura eu une... croissance très modérée sur l'année 2022. Mais en revanche, quand même, on peut se féliciter. Pourquoi on en est là ? C'est quand même toutes ces politiques de quoi qu'il en coûte ont quand même fonctionné dans une crise quand même exceptionnelle sanitaire, ce qui fait qu'on a quand même préservé le tissu productif. Les entreprises sont sorties de la crise avec des niveaux de marge très élevés. On a préservé l'emploi et les revenus, ce qui nous a permis d'aborder ce choc de pouvoir d'achat avec quand même des revenus qui n'avaient pas été amputés lors de la crise de la Covid. On a un taux de chômage qui est quand même bas par rapport à ce qu'on aurait pu craindre.
Par rapport à ce qu'on aurait pu craindre.
Voilà, par rapport à...
Ça me gêne toujours quand on dit qu'on a un taux de chômage bas parce qu'on est au-dessus de 7.
Voilà. Par rapport à ce qu'on... Et on a encore une dynamique d'emploi. Enfin, il n'aura échappé à personne. On est quand même très étonnés, très surpris. Je crois qu'on n'arrive pas encore à expliquer pourquoi aujourd'hui l'emploi va plus vite que le PIB.
Vous êtes la deuxième en deux jours à dire qu'il y a des éléments sur l'emploi qu'on n'arrive pas à expliquer.
Ah non, mais on n'arrive pas. Enfin, on essaye par tous les moyens. Enfin, on parle des apprentis. Il y a le chômage partiel, etc. Mais globalement, quand même, alors ça a des implications sur la productivité. Mais et on ne sait
pas
de quelle nature.
C'est la vraie question d'économiste. Hein.
Voilà, on ne sait pas de quelle nature. Est-ce que c'est de nature structurelle ou conjoncturelle ? Et ensuite, on aura un rattrapage. Mais un emploi aussi qui est assez dynamique. Donc voilà, globalement, on n'était pas non plus, même si vous le soulignez, on a effectivement un déficit commercial abyssal, mais si on regarde au niveau
du tableau, Isabelle,
mais le déficit courant, on a eu un excédent courant. Donc, tout ceci
première
fait
fois depuis 15 ans en 2021.
Je dis pas que c'est solide, mais en tout cas, c'était pas non plus catastrophique.
Il y a un autre truc que je n'arrive plus à comprendre. Je vois pas un chef d'entreprise qui n'a pas des problèmes de recrutement. Et on a encore quand même 7% de chômage. Il y a un moment, ça m'échappe. Ça défie les lois de la physique presque. Quoi donc ?
Bah non, parce que c'est...
Bah ben non, mais regardez. Catégorie A, bon, je préfère INSEE à Pôle emploi, mais 3,5 millions en catégorie A. Et il n'y a pas un patron qui, à tous les niveaux de diplôme, n'est pas en train de chercher du monde.
Ah oui, mais c'est des problèmes de matching, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes pour les jobs.
Soudainement, on s'est mis à plus du tout avoir les bonnes personnes pour les postes, alors que malgré tout, on y arrivait un peu mieux avant.
En tout cas,
c'est quand même dingue.
Ouais. On sait que le problème du chômage, il est quand même très très localisé sur les jeunes, les seniors, peu qualifiés. Donc c'est quand même une population très très spécifique. Et effectivement, c'est pour beaucoup des emplois, hôtellerie, restauration, vous cherchez pas forcément du personnel. Ni très jeune, ni très senior.
Ce qui me frappe, c'est que vous cherchez pas forcément des très qualifiés non plus.
Oui,
non,
mais ce qui me frappe, Isabelle.
Non, mais c'est pour ça. C'est dans l'hôtel-restauration, en l'occurrence, il y avait une population de non qualifiés qui pourrait accéder.
Oui, mais par exemple, les restaurants vous disent, on n'a pas besoin que de serveurs, il nous faut des cuisiniers. Un cuisinier, c'est quelqu'un qui est quand même qualifié. Il y en a pas. Et je rencontre des chefs d'entreprise dans plein de domaines, même des bacs plus 3, 4, 5, notamment des ingénieurs, ils en trouvent pas. C'est bon.
Mais enfin, je crois qu'enfin, on dit beaucoup que c'est des questions salaires, notamment dans les dans certains secteurs,
etc. Ça peut jouer, hein, ça.
Et en fait, de plus en plus, et je pense que c'est aussi ce que se disent les chefs d'entreprise, c'est aussi beaucoup sur les conditions de travail.
Exact.
Ouais.
Donc exact. Et donc il y a quand même en train, il y a une réflexion qui, je pense, au niveau de chaque entreprise, de réflexion sur comment mieux organiser le travail de manière à retrouver de l'attractivité dans leur métier. Même si bien évidemment il y a des questions salariales, hein, bien évidemment qui existent aussi. Mais franchement, enfin, moi, il me semble que en parlant aux chefs d'entreprise, progressivement, ils se rendent compte que c'est davantage en termes de qualité au travail.
Et de distance. Je suis frappé de ce que. Alors c'est peut-être lié au prix de l'essence ou de l'énergie en général, mais j'ai l'impression que les gens acceptent moins de bouger qu'avant. Moi, dans les endroits où je parle des vacances, et je pose la question au restaurant, je trouve personne à employer. Pour des raisons de salaire, pour des raisons de conditions de travail et pour des raisons de distance.
Et de logement. Mobilité. Et de logement aussi. Pour tous les saisonniers, il y a quand même aussi une problématique de logement dans des zones touristiques où il est difficile de loger les saisonniers.
Mais c'est un phénomène mondial. Donc là, on parle de quelque chose.
C'est vrai, c'est un phénomène mondial. La réaction de Sacha qui me met les super profits de Total ne sont pas réalisés en France. Les taxis revient à imputer la compétitivité de ce groupe face à ses concurrents.
Sur les fondamentaux, je veux bien réagir.
Alors, sur les fondamentaux, et je voulais aussi. Aussi avoir votre comment vous entendez le mot code d'alerte c'est quand même un des mots de la semaine quand on suit l'économie d'à peu près quoi.
Non, sur les fondamentaux, je crois qu'on sait tous que les trois prochaines années vont être très difficiles, donc on est à ce moment dans les montagnes russes, là on arrive en haut de la colline et on voit que et je crois que c'est quand on l'optimisme de Bruno Le Maire, c'est un peu un optimisme de quand on se compare finalement on se dit c'est pas si mal.
C'est-à-dire que
le mix d'activités de la France est plutôt bien adapté à la situation. On s'est beaucoup plaint de la désindustrialisation, mais là, en l'occurrence, prochaines années, c'est plutôt une chance d'avoir une économie qui ressemble plus à celle des États-Unis qu'à celle de l'Allemagne, qui est très dépendante de sa chaîne d'approvisionnement, qui va prendre de plein fouet la hausse de toutes les matières premières et les carburants en tout genre. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, je crois que dans la satisfaction de Bruno Le Maire, il y a cette idée que finalement, quand on se compare... On voit comment on va les traverser ces trois prochaines années. En Allemagne, c'est beaucoup moins clair, en fait, jusqu'où ça peut descendre.
Que ça va décélérer en Allemagne. Voilà,
Donc je crois qu'il y a ça. Et puis après, sur les finances publiques, en revanche, là, je trouve que le discours, c'est bien d'être optimiste et d'être le monsieur, soyons optimistes, mais dans le cas de Bruno Le Maire, je veux dire, mais là, il faut quand même commencer à discipliner un peu le discours. Et effectivement, le côté traité comme des chocs temporaires, des chocs qui ne sont pas temporaires, là, il a un train de retard pour le coup. C'est-à-dire qu'il est dans un discours. Sur l'inflation notamment, qui consiste à dire finalement la doctrine est la même que pour le Covid, il y a un choc, on va assurer complètement la société contre le choc. Or, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui plus pauvre qu'on l'était avant le choc, il faut se demander comment on va partager la facture du choc. Et ça, c'est le rôle du gouvernement quand même de poser cette question, c'est vraiment une question politique, c'est plus une question économique. Et donc là, en étant dans le déni, c'est-à-dire sur l'idée que c'est un choc très temporaire, le gouvernement, son rôle, c'est d'assurer, de préserver le pouvoir d'achat, là, il y a un déni de réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préserver le pouvoir d'achat quand on est plus pauvre.
Juste une phrase sur la fin de ce que vient dire Augustin. C'est qu'en même temps, Bruno Le Maire, il vous explique que l'inflation va rester un problème jusqu'à la fin 2023.
En plus, voilà, donc il y a un problème de cohérence interne du discours.
C'est pas vraiment temporaire, ça. Et je pense que ça ancre les anticipations d'inflation à un niveau plus élevé. Et ça les ancre. Et ça entretient aussi le phénomène. Donc, par rapport à la gestion du temps, il y a un peu d'incohérence là aussi.
Deux minutes, la cote d'alerte.
Non, puis Isabelle sur la question de la confiance, moi je suis assez sensible à cette question de la confiance.
La confiance de qui envers qui?
Non, la confiance des Français en général.
On a eu le chiffre INSEE, ça a baissé.
L'économie, elle fonctionne par la confiance. Donc c'est aussi important de la part du gouvernement de maintenir quand même un certain niveau de confiance. Faut pas être dans le déni non plus.
Si c'est pas crédible, c'est pire que tout.
D'accord. Mais il faut quand même, s'il y a des éléments qui plaident quand même en cette faveur, de pouvoir souligner ça et maintenir un certain niveau de confiance, parce que si vous regardez dans les scénarios qu'on élabore aujourd'hui, on a quand même l'idée que les agents économiques vont continuer de surépargner. Et donc, cette surépargne, ça veut dire que quelque part, ils sont un peu dans la défiance, où ils n'ont pas confiance, ils sont dans l'attentisme, etc. Donc, si on peut amener des éléments de confiance qui fassent que les gens consomment un petit peu plus et épargnent un petit peu moins, eh ben, tant mieux, parce que c'est plutôt bon pour la croissance.
Question de voiture.
on comptait beaucoup sur la désépargne.
Oui, et on a.
On comptait beaucoup sur la désépargne de l'épargne Covid, qui fait à peu près sur deux ans, 20-21, 140 milliards d'euros.
Mais
plus,
disons,
voilà, 170,
je crois. Entre 140 et 160, bon. Type Banque de France. On disait, voilà, ça va aider les agents économiques, les consommateurs à maintenir leur consommation. Si c'est l'inverse qui se passe, on n'est pas très bien.
Ouais, ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on vont faire les agents économiques de toute cette épargne accumulée?
Et donc ils vont
financer l'État, c'est très
bien. Oui, non, mais si on leur dit que l'inflation va pas décélérer avant mi-2023, à mon avis, c'est pas le meilleur signal à envoyer, par exemple. On marque une pause. Je pense que c'est plus la peine d'être crédible en France aujourd'hui, Augustin.
Non, mais
regardez, on peut arriver troisième à l'élection présidentielle en disant je vais dépenser 250 milliards et taxer 170 milliards.
Oui. Donc ça, c'est un équilibre en théorie des jeux, c'est un équilibre de babbling, où finalement, je sais que ce que vous dites n'est pas crédible, et donc tout le monde se casse sur un discours comme ça.
On marque une pause. La cote d'alerte avec Isabelle Jobe-Basile, je veux absolument. Et alors après, imaginez que le médecin n'a pas vu que vous étiez en insuffisance respiratoire, que le pompier n'a pas vu que l'immeuble était en feu, les banquiers centraux, ils n'ont pas vu que l'inflation revenait. Pose un petit problème quand même, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Isabelle Jobe-Basile, directrice des études économiques de Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est ça. Christian Deboissieu, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, et Augustin Landier, professeur à HEC, co-auteur du Prix de nos valeurs, quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels, chez Flammarion. Code d'alerte. Alors, il y a eu Bourlanges qui a dit la limite du tolérable. Oui, bon, non. Mais restons sur la code d'alerte.
Alors, moi, je ne suis pas nécessairement code d'alerte, mais plutôt, effectivement, alerte. C'est simplement, on s'était un peu endormi. Pendant des années, on a vécu, on n'avait pas d'inflation, on avait des taux à zéro, voire des taux négatifs. Il faut se rappeler qu'il fut une période, l'État français s'endettait à taux négatifs sur une maturité de 10 ans.
Il se faisait payer, oui,
voilà. Pour emprunter. Il y a un an, les taux étaient encore à zéro. À 10 ans, l'État français émettait des taux d'intérêt à zéro. On est passé en quelques semaines à 2%. Donc aujourd'hui, l'État s'endette à 2%. Ça reste bas, ça reste bas compte tenu du niveau d'inflation. Ça reste bas.
Taux d'intérêt réel négatif encore aujourd'hui.
Voilà, mais ça veut dire que, et en plus, compte tenu du fait que ce qui est précisé justement par Bruno Le Maire, la bosse d'inflation, elle risque d'être plus longue à dégonfler, on va rester avec une inflation plus élevée. On a des raisons de croire que même à moyen-long terme, on a quand même changé de paradigme et on va avoir un peu plus d'inflation. On va revenir peut-être dans l'ancien monde. Simplement, on avait oublié qu'il y a eu un ancien monde où il y avait de l'inflation, plus d'inflation, et donc des taux d'intérêt plus élevés. Or, une dynamique d'endettement, ce qui détermine cette dynamique, c'est votre écart entre le taux de croissance et le taux d'intérêt.
Le taux d'intérêt dépasse la croissance, c'est là où les choses
arrivent. On a ce qu'on appelle un effet boule de neige, donc qui fait que vous perdez un peu le contrôle sur l'augmentation de votre dette. Alors, on n'est pas du tout dans cette situation. Si vous vous dites que, on l'a dit tout à l'heure, la croissance potentielle, elle est entre 1 et 1,5 et l'inflation autour de 2, ça veut dire que tant que les taux ne sont pas au-delà de 3-3-5. Enfin voilà, la question de la soutenabilité n'est pas encore totalement posée. Mais on est quand même dans une dynamique où on voit les taux d'intérêt remonter. Et donc ça veut dire qu'il va falloir probablement davantage se discipliner au niveau budgétaire.
Il vaut mieux parler de ça avant que les choses n'arrivent. Le jour où on est au 3,5, c'est un peu trop tard.
C'est un peu trop tard. Donc il vaut mieux s'y préparer.
C'est important de s'arrêter sur ces termes. Parce que souvenez-vous, pendant des années, on nous a dit vous passez 90% de dette par rapport au PIB, vous êtes mort. Et puis finalement, c'était une estimation américaine qui a été complètement.
C'était Rogoff et Reinhardt qui avaient fixé ce seuil de manière un peu arbitraire.
Oui, oui.
Alors regardez, est-ce qu'on est au-dessus de 90? En France, on est au-dessus de 90.
Et en plus, ils s'étaient trompés dans le tableau Excel.
Je
voudrais faire une remarque sur la question de la maîtrise des dépenses publiques. Excusez-moi, parce que c'est aussi le sujet sur la cote d'alerte.
Ah ben bien sûr.
Dans le contexte qu'Isabelle vient de rappeler, les charges d'intérêt vont augmenter, à la fois pour le public et pour le secteur privé. Moi, je n'oublie pas les problèmes de dette privée.
Je suis d'accord.
Ils sont très importants également. Bon, mais je reviens aux finances publiques. Il y a des secteurs qu'il faut augmenter. Dans le contexte géopolitique, le budget de défense, il faut l'augmenter. On va augmenter légitimement les fonctionnaires dans un certain nombre de secteurs, l'éducation, les hôpitaux, etc. Où est-ce qu'on va trouver des marges de manœuvre pour en quelque sorte, baisser les dépenses. Ça rejoint un débat qu'on aborde souvent autour de votre table, qui est, au fond, la question de l'efficacité ou pas des dépenses publiques. Est-ce qu'on a les moyens...
Ce débat qui me désespère.
Oui,
ben non, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle, on a fait des tas de commissions successives qui ont débouché sur des tas de rapports qui ont débouché sur rien. Le dernier en date étant le sous Édouard Philippe Premier ministre, le fameux Cap 22, vous savez qu'on était... qui a été publié par Bonnefeuille, mais ici ou là. Donc, moi, je sais pas comment on va pouvoir baisser... Alors, sur les dépenses publiques, il y a aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Je vous dis pas, dans une optique européenne, il y a les trois étages de la fusée. État, collectivité locale, sécu, mais... Je ne sais pas comment on peut aborder, et il faut l'aborder, la question de la maîtrise des dépenses publiques dans le monde que j'ai appelé le monde de demain.
Et surtout qu'il faut créer des espaces pour pouvoir investir massivement. On sait qu'on a des investissements massifs à faire. Alors bien évidemment, ce n'est pas que le public, ce n'est pas que à l'échelle française, mais c'est aussi à l'échelle européenne. Mais on sait qu'on a des enjeux majeurs. Enfin, les chiffres sont vertigineux de ce qu'on doit investir pour cette transition énergétique.
4 points de PIB par an sur le vert,
c'est
par
ça.
Exemple.
Il faut doubler, doubler les investissements. Et donc, une partie sera quand même portée par l'État.
Il y a un jour, il faudra quand même qu'on réussisse à avoir collectivement, au niveau national, ce débat sur alors l'efficacité, bien sûr, mais il est clair que malgré la question de l'efficacité, il va falloir la baisser, cette dépense publique. Et quand on dit la baisser, c'est pas aller supprimer trois comités Théodule pour baisser de 800 millions d'euros.
Si on supprime quelques comités Théodule,
on en crée un, le nouveau Conseil national de la refondation.
Attendez, mais celui-là, il a du plomb dans l'aile, non?
Déjà? J'ai pas vu. Vous voyez que le CNR ne verra pas le jour?
J'ai vu que le lendemain des législatives...
On ne parle plus, en tout cas.
C'est vrai qu'on n'en parle plus. Non, c'est de la grosse com' politique. Il fallait trouver un truc qui fasse CNR. Donc, on s'est dit, Conseil national de quoi? Bon, c'est la refondation.
C'est de la com' qui ne marche pas. C'est ça qui est curieux, en fait. C'est que ça marche. C'est pas tellement dans...
Vous me dites, Augustin, qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis.
Oui,
c'est
un peu ça.
C'était dit subtilement, mais on a tous compris.
J'aime bien, oui. Oui, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Bon, Sintra, j'ai du mal à être indulgent, là, Augustin Landier. Janet Yellen, je me suis trompé. Jay Powell, je me suis trompé. Tout le monde s'est planté. C'est leur boulot.
Ouais,
ils sont bardés d'économistes de haut niveau. Ce ne sont pas des gens incompétents, les gens qui sont dans les banques centrales. Là, tout le monde tombe de sa chaise. Or, on n'a pas vu qu'on avait fait une incroyable politique ultra-accommodante et qu'on avait totalement inondé le monde de liquidités. Or, on n'a pas imaginé qu'un jour, la bonne vieille théorie quantitative de la monnaie pourrait se réveiller. Or, on n'a pas vu que l'inflation était de retour et que potentiellement, elle n'était pas là pour un trimestre. Ouais.
Non, ce qui est un petit peu curieux, c'est... ce mea culpa, parce qu'au fond, je pense que dans le discours qui précédait, il y avait cette idée que c'était asymétrique, que finalement, il valait mieux se tromper... dans le sens de ne pas augmenter les taux trop vite plutôt que trop lentement. Et donc là, effectivement, c'est bien ce qui s'est produit. On augmente les taux un peu avec un retard, un temps de retard. Mais il devrait assumer en fait le fait que, effectivement, on est dans un des scénarios qui était possible. Enfin, ce qui est curieux, c'est que le discours ne soit pas plus élaboré. C'est-à-dire qu'on attendrait des banquiers centraux qu'ils aident les gens à réfléchir au fait que, ex post, on est dans un monde qui était un des mondes possibles il y a 2 ans. Ce n'était pas écrit avec certitude. C'était un des scénarios... qu'ils devaient envisager, je pense qu'ils l'avaient envisagé, et que du coup, ils y réagissent, et que la raison pour laquelle ils n'ont pas réagi plus tôt, c'est que ça aurait été coûteux d'agir trop tôt. Donc voilà, je suis curieux qu'ils n'assument... étonné plutôt qu'ils n'assument pas plus, en fait, le fait qu'ils ont choisi d'agir avec retard pour s'assurer de savoir dans quel monde on était. Et puis l'autre chose, c'est en revanche sur l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas un choc non anticipé. C'était un des scénarios, je me souviens très bien, en décembre, c'était considéré comme un événement de probabilité au moins 30%. Donc ça faisait partie des scénarios qu'un banquier central devait avoir en tête, un très gros choc énergétique. Donc là aussi, il devrait montrer qu'au contraire, ça faisait partie des scénarios possibles.
Pardon.
C'est terminé déjà, on s'en va.
C'est la cote d'alerte. Oui, mais bon, Il y a un moment où la faillite des experts, doit, il y a des limites, quoi. Ouais, c'est, j'ai un peu du mal à être indulgent. Est-ce que le débat,
non, parce que tu vas pas être indulgent avec nous. Hein,
non, parce que le débat.
Parce qu'on a fait l'erreur aussi collectivement.
Pas tous. On en parle depuis un an et demi de l'inflation et de temporaire, pas temporaire. Il y avait quand même, comme vous le dites, pas mal d'éléments consécutifs.
Quelle inflation temporaire, pas temporaire, à quel niveau? Et puis après, je reviendrai sur le sujet.
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Est-ce que tout ça était prévisible? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Augustin. Je pense quand même que la guerre en Ukraine était imprévisible.
Ah mais non, mais alors ça, je te garantis, en décembre, vas sur Bloomberg, tu verras, ça fait partie des scénarios.
Alors, tu as dit 30%, disons peu prévisible. C'était compliqué, à mon avis, pour les banques centrales d'intégrer ça, je trouve. On leur dit, voilà ce que je pense. Donc, attends, moi, je suis pas banquier central. Je cherche pas à les défendre coûte que coûte. Je dis simplement, est-ce que les marchés avaient prévu la guerre en Ukraine? Pas plus que la plupart des banquiers centraux. Pas plus que les banques. Le FMI. Je veux dire, non, on vit dans un monde, excusez-moi de le dire, où quand vous prenez les grandes crises depuis 30 ans, alors, il y a eu beaucoup de crises financières qui n'ont pas été prévues, mais là, l'Ukraine, au départ, ce n'est pas une crise financière, ça a des conséquences financières. On n'arrive pas à prévoir les crises. Les chocs comme ça, c'est très compliqué.
Il y a de l'incertitude, c'est-à-dire que tu ne peux pas les prévoir probabilité 1, mais il y a une probabilité. Je ne sais pas, Taïwan aujourd'hui, pour quelle probabilité? Ce n'est pas zéro. Donc.
Deuxièmement.
Ah ouais, très bon exemple.
Il y a un deuxième sujet, c'est est-ce que les banques centrales. N'ayant pas prévu la guerre en Ukraine, on réagit suffisamment vite. C'est le deuxième sujet. C'est le problème du tempo du resserrement monétaire.
Timing is crucial.
Bon, la Fed a été réactive. Bon, alors peut-être parce que l'économie américaine se porte mieux que la nôtre, le taux de chômage est plus bas aux États-Unis que dans la zone euro en moyenne, etc. Il y a des raisons. La BCE... a trop tardé. Alors, par rapport à ce débat, effectivement, choisir entre deux mots, on est dans un contexte de stagflation, est-ce qu'il faut resserrer vite pour calmer l'inflation, la faire baisser et revenir à l'objectif de la Banque centrale? On en est très loin aujourd'hui. La BCE, c'est être proche de 2 et inférieur à 2% en moyenne. Bon, on en est loin, vous le savez, puisque dans la zone euro, on est à 8, hein, autour de 8.
À peu près, oui.
Si je caricature ou si je résume. Bon, donc, moi je pense que la BCE a trop tardé, que ça fragilise un peu la gouvernance de la Banque Centrale Européenne. Bon, vous allez dire, on peut taper sur les experts dont nous essayons de faire partie les uns les autres. Les experts se sont trompés, les banques se sont trompées, les organismes internationaux se sont trompés, les agences de notation se sont trompées. C'est un peu le monde dans lequel on vit, je veux dire, voilà. Alors, mea culpa. Je trouve, et je termine en disant, je trouve comme... Augustin, tu vois, je suis d'accord avec toi, souvent. ça m'arrive. Donc, je trouve que la manière dont les banquiers centraux se retrouvent et convergent à Sintra, au Portugal, ces jours-ci, en disant... C'est à la fois sympa de dire, on s'est peut-être trompé. Et en même temps, ça camoufle des divergences entre les pays, parce que, je répète, la Fed a été beaucoup plus réactive que la BCE. La Fed et la Banque d'Angleterre et puis quelques autres banques centrales.
Votre lecture, Isabelle Job-Basile, Jackson Hole européen.
Non, mais le fait est, quand on est dans des bascules de régime, on a du mal à les voir. Mais comme ça a été le cas pendant des années des banques centrales, lorsqu'on était ce qu'on appelait la stagnation séculaire, l'inflation zéro, enfin tout le phénomène, il nous disait que en fait l'inflation très basse, ce n'était que temporaire et qu'il fallait se préparer à l'inflation qui revienne.
Et d'ailleurs, je te baisse les taux pour la faire revenir.
Voilà. sur les écrans radars. Donc on a vécu très longtemps sans inflation et là effectivement multiples chocs qui font que l'inflation augmente et donc je pense qu'on a du mal collectivement à se dire quand dans ces moments de rupture, de bascule de régime, on a du mal à se dire que c'est peut-être plus durable que ce qu'on avait imaginé précédemment. Je pense que la Fed, mais je pense que tous les experts, on ne peut pas imaginer tous les états du monde. Donc c'est vrai qu'on probabilise, on probabilise, etc. Sauf que quand vous communiquez, la plupart du temps, sur quoi vous communiquez, votre scénario central. Et donc le scénario central n'était pas effectivement celui de la guerre en Ukraine.
Pas communiquer sur 25 scénarios quand on est.
Non, mais ça veut dire que moi je pense que c'est la mort du scénario central. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, dans un univers aussi incertain dans lequel on vit aujourd'hui, on ne peut plus parler de scénario central. Parce qu'un scénario central, c'est que vous lui donnez une très forte probabilité de réalisation. Or, aujourd'hui, malheureusement, vous avez des scénarios alternatifs qui ont une probabilité qui s'en rapproche.
Non, entièrement d'accord. On attendrait des banques centrales qu'elles organisent, justement.
Voilà, et donc il faut organiser, mais je pense collectivement, toute l'expertise un peu différemment de ce qu'on faisait jusqu'à présent.
La Banque de France vient de faire des prévisions avec un scénario central.
Oui. Et dernièrement, moi, je ne suis pas d'accord sur la Fed. La Fed a réagi plus rapidement, tout simplement parce qu'elle ne fait pas face au même problème d'inflation. Aux États-Unis, vous avez eu un problème de surchauffe économique lié à des plans.
Était plus bas.
Voilà. Si vous regardez en Europe, on a encore les niveaux de consommation sont inférieurs à ceux de la fin 2019. On n'est pas du tout dans un contexte d'excès de demande comme on peut avoir aux États-Unis. Donc, il est normal que les États-Unis aillent plus vite, plus fort par rapport à une BCE. Enfin, quoi qu'il en soit, enfin, je veux dire, elle aura beau remonter ses taux d'intérêt, ça ne va pas faire levier sur les prix des matières premières.
Plus, il y a un temps de latence entre
On n'a déjà pas retrouvé sur certains composantes d'activité, puisqu'on était à peine on avait retrouvé le niveau de 2019. Donc, se retrouver en récession à partir d'un niveau qui est celui simplement de 2019, on a vraiment perdu déjà 3 années de croissance, ça semble un peu bizarre. En revanche, qu'elles doivent agir pour contrôler les anticipations, pour éviter que se mettre en place une boucle prix-salaire, etc. Oui, que bien évidemment, elle a les moyens de le faire parce qu'elle peut remonter ses taux et conserver des taux réels négatifs. Donc, ça veut dire que les conditions monétaires et financières vont rester relativement souples. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas agir. Mais en tout cas, on n'est pas quand même dans la même...
On a pris le pari avec Christian ce matin qu'elle ferait du 25 points de passe en juillet et du 50 en
oui,
en
oui,
probablement. Non, mais Isabelle, oui. Je suis d'accord avec Isabelle qui n'est pas d'accord avec moi.
Parce que,
Non, et parce que j'ai bien souligné tout à l'heure la différence de conjoncture. Oui. Et j'ai dit la Fed est réactive parce que la conjoncture n'est pas la même. Ils ont un taux
c'est même surchauffe.
Ils avaient un taux de chômage beaucoup plus bas.
Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas remonté. Enfin, la politique intelligente qu'auraient pu faire les États-Unis, c'est certes remonter un peu les taux, puisque c'est quand même l'objectif de la Banque centrale de contrôler l'inflation, mais aussi de remonter un peu les impôts, de reprendre un peu le trop-plein qu'ils avaient versé pendant toute cette période.
Ce qui va être intéressant, excusez-moi, pour évoquer un sujet dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, et qui est lié à ce même sujet, c'est l'impact taux de change.
Dans quelle mesure
la différence de réactivité... Alors, pour l'instant, l'euro a, depuis quelques mois... plutôt baissé par rapport au dollar.
Mais on est à 0,5, à peu
près. 0,4, oui, 0,5, je ne suis pas inquiet. Mais dans les mois qui viennent, est-ce que le fait que la BCE va chercher un peu à rattraper son retard, résume comme ça, avec 50 points de base probables en septembre, est-ce que, même si la Fed va continuer en attendant, elle ne nous attend pas, la Réserve fédérale. Quel est l'effet taux de change? Je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, parler du problème du taux de change
euro contre dollar. Oui, parce que le taux de change, en l'occurrence, c'est de l'inflation importée, hein, quand ça se déprécie.
On est bien d'accord.
Donc ça fait partie de l'objectif de la Banque centrale, de ne pas être en retard complètement par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, pour ne pas avoir une dépréciation telle qu'on va avoir, en plus de l'inflation, de la crise énergétique, etc., une inflation importée.
Il y a des mauvaises langues qui disent que, par l'arme des taux, en fait, les banques centrales se font une guerre d'échange aussi.
Oui, mais la guerre d'échange, c'est pas dans ce sens-là.
Oui,
la guerre d'échange, c'est plutôt l'inverse. C'est on cherche à déprécier sa monnaie regagner de la compétitivité.
Ça dépend quel pays on est, à quel moment on se situe. Et nous, en l'occurrence, on aurait plutôt l'intérêt à l'avoir un peu plus élevé, notre euro.
Oui, attends.
Parce que le fait de remonter les taux, vous faites remonter l'euro et vous freinez l'inflation. Oui. Bon, j'ai des gens, ils considèrent que les banques centrales sont dans leur mandat. On leur dit au-delà de 2%, vous montez vos taux. Elles le font, c'est normal. Voilà. Bon. Est-ce que vous arrivez à saisir ce que pourrait être l'outil anti-fragmentation ? Augustin,
non, il est paradoxal. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à la fois, on a besoin du signal prix pour que les gouvernements et que Bruno Le Maire puissent dire « Oui, vraiment, j'étais optimiste, mais maintenant, les marchés, eux, s'inquiètent, donc on doit agir. » Donc, si on n'a pas ce signal à un moment, ça va être dur pour les politiques d'engager les conversations difficiles. Et donc, la BCE se retrouve dans cette situation à nouveau
Elle veut éviter la mort de l'euro. Elle veut éviter
C'est dans son mandat.
D'avoir un outil anti-fragmentation.
Dans son mandat, il faut qu'il y ait une transmission homogène de la politique monétaire.
Ah oui, d'accord, effectivement.
Et donc, c'est comme ça qu'elle va le défendre. Elle ne va pas vous dire que c'est pour soutenabiliser la dette des États, etc. Donc, elle va défendre sur le fait qu'elle veut que son orientation monétaire, eh bien, se diffuse de manière homogène dans toute la zone euro. Sauf qu'aujourd'hui, on a vu effectivement que dès qu'on a commencé à avoir cette idée de resserrement monétaire ou de normalisation, j'aime pas resserrement, plutôt normalisation monétaire, les marchés se sont immédiatement commencé à réévaluer les risques de soutenabilité sur un certain nombre de dettes de la zone euro, de pays très endettés, notamment l'Italie. Et donc, ça a fait que les écarts de taux se sont fortement creusés entre les différents pays. Enfin, autant nous, on est autour de 2, mais on a atteint quasiment 4% sur le taux italien.
Ah, on l'a même dépassé à un moment.
Oui, on est qu'on sait que la croissance potentielle en Italie, elle est très faible. Hein, certains l'estiment quasiment à zéro. Donc, si avec une inflation à 2%, donc eux, ils se retrouvent avec des taux qui sont supérieurs, hein, qui, potentiellement sur le moyen terme, supérieurs à la croissance nominale. Donc là, oui, il y a eu ces questionnements.
Visiblement, donc, on dit la BCE va vendre de l'allemand pour acheter de l'italien.
Non, mais ça, alors, quels sont les problèmes? C'est-à-dire que c'est bien qu'elle s'engage, parce que de toute façon, c'est pas la première fois qu'elle dit qu'elle a aussi comme objectif la lutte contre la fragmentation financière en zone euro. Aujourd'hui, c'est de se dire, elle veut créer un outil. Et là, c'est vrai que le diable est dans les détails.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'est la taille, combien on en met, c'est de se dire qui a droit, est-ce qu'il y a une forme de conditionnalité ou pas, à quel niveau on déclenche le mécanisme, c'est quoi des
spreads illégitimes. Je crois que le diable n'est pas dans les détails, il est dans la doctrine, c'est-à-dire que la doctrine est contradictoire au départ, et donc là, la BCE, l'époque du quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, enfin le
whatever it takes,
elle est finie, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans une situation où il y avait effectivement ces problèmes de liquidité, simplement il fallait recoordonner les anticipations sur l'euro va traverser cette crise et continuer d'exister après la crise financière. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même la pérennité à long terme de la zone qui est en cause. Est-ce que, effectivement, la dette italienne, à un moment, il va falloir remettre les pendules à l'heure et accepter un...
Oui, mais là où Isabelle, à mon avis, a raison, c'est que pour rendre ce dispositif acceptable par l'Europe des buveurs de bière, il va quand même falloir calibrer les agendas, les montants, règles de répartition ou pas règles de répartition.
C'est inévitable qu'il y ait quand même un spread.
Ce qui est super intéressant, c'est que ça va probablement inciter, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce plan Next Generation EU, vous avez la partie subvention, directe, et puis vous avez une partie de pouvoir avoir accès à des emprunts communs, dans le cadre de ce plan, pour financer la transition, etc., qui sont en fait financés avec les conditions financières de l'Europe, de la Commission, qui sont très très bonnes. Et en fait, il y a un tas de pays qui ne voulaient pas y aller jusqu'à présent, et dans la configuration de taux actuelle, qui vont avoir intérêt à aller prendre cette partie du plan qui leur permettra d'accéder à cette forme de cette dette commune moins chère.
Mais c'est exactement ton débat sur le scénario central, c'est-à-dire que le scénario central, c'est que l'euro continue, mais on peut pas dire au marché la probabilité que l'Italie fasse défaut est zéro. C'est pas zéro. Le marché est obligé d'essayer de calculer cette probabilité, et donc c'est là qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que la BCE fait comme si probabilité 1,
mais elle peut pas dire.
Christian de Boissieu. L'antifragmentation.
Le problème de fragmentation, qui est un problème important. Premièrement, c'est pas dans le mandat de la BCE, dans le traité de Maastricht, il n'y a rien là-dessus.
Non, mais c'est dans
l'interprétation qu'on donne de la Banque Centrale Européenne. Et l'interprétation, elle peut changer dans le temps. Et de toute façon, les structures financières étant différentes d'un pays de la zone euro à l'autre, la transmission est différente. Vous avez des pays dans lesquels dominent les taux fixes, des pays comme l'Espagne dans lesquels dominent les taux variables. Ça a l'air de rien, mais ça fait que la même politique monétaire de départ décidée à Francfort a des répercussions à l'arrivée qui sont différentes. Deuxième remarque, l'instrument fragmentation dont parlait Isabelle, ça va être du réglage fin et peut-être trop fin, parce qu'il faut être très sélectif. On trouve une politique monétaire sélective au moment où la BCE dit à partir du 1er juillet, c'est-à-dire demain, à partir du 1er juillet, le quantitative easing, les achats de titres sont terminés, je me contente de réinvestir les obligations qui viennent à échéance. Alors là, on peut réinvestir le produit des obligations qui viennent à échéance en achetant de la dette italienne, de la dette grecque, etc. Mais ça va être extrêmement sélectif, et je trouve que c'est assez dangereux. politiquement et même financièrement, d'aller dans une politique monétaire qui à la fois se veut globale et risque de devenir aussi, je dis bien, sélective. On fait du truc pays par pays, c'est un peu compliqué dans une zone avec une monnaie unique. Alors on l'a fait au moment de la Grèce,
oui.
Mais on a mis en place...
Et là on avait mis en place un mécanisme,
le mécanisme
ad hoc,
de stabilité financière. Bon, et on donne de l'argent au MES, au mécanisme européen de stabilité financière, qui prête ensuite, c'est-à-dire on mutualise. C'est pas direct, c'est indirect.
Non, mais on pourrait faire par d'autres manières, hein. je suis entièrement d'accord, mais le fait est... Si vous créez de la déconvergence au sein de la zone euro, oui, ça va à un moment donné mettre en danger l'intégrité de la zone euro. Donc il y a quand même des enjeux de cette nature. Il y a quand même des enjeux de cette nature. Alors je ne sais pas si c'est le bon instrument, etc. Mais à tout le moins, il faut quand même réfléchir pour éviter qu'on ait ces phénomènes, dans le contexte en plus actuel, d'avoir ces phénomènes de déconvergence.
Il ne faut pas oublier que c'est un peu fragile l'euro. Moi, je me souviens d'une date, c'était un 5 juillet de je ne sais plus quelle année, 2013 ou 2014. Il y avait une réunion importante qui se tenait avec les responsables de la Grèce à Bruxelles, Troïka. On savait qu'en fonction de ce qui allait ressortir de cette réunion, 2014. L'euro pouvait être en risque.
Oui. 2014.
Dans l'heure, 2014, oui. Dans l'heure qui suivait.
Est-ce que peut-être l'objectif n'est pas de faire du whatever it takes, c'est-à-dire de simplement par la parole, d'essayer de calmer un peu. Alors, malheureusement, en disant qu'on va faire un outil dans l'immédiat, etc., c'est embêtant, parce que derrière, les marchés vont aller tester. Ils vont aller tester la BCE en se disant, c'est pas suffisant, ou etc., de voir jusqu'à quel point elle est engagée dans son discours. Mais à tout le moins, c'est vrai que de se dire je veux qu'il y ait une transmission homogène, etc., je ferai quoi qu'il en coûte pour arriver à cet objectif, pourquoi pas, parce qu'il y a vraiment des enjeux de tiraillement, de grand écart entre les différents pays.
Un petit mot, allez, on a 3 minutes. Un petit mot sur la présidence française de l'Union européenne, Christian de Boissieu. Vous,
pas mal, moi.
Il y a une ambiance un peu cocorico ce matin.
Non, moi je fais pas de cocorico. Le prof que je suis donne 13 ou 14 sur 20. Je trouve qu'il y a des choses qui ont avancé sur l'énergie, le paquet énergétique, l'accord énergie, dans un contexte très difficile. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Covid pas fini, l'Ukraine qui arrive. Bon, les 6 mois sont vite passés. Sur le salaire minimum au niveau européen, on va voir ce que ça donne.
C'est pour l'ambiance, hein. Chaque pays fait ce qu'il veut.
C'est pour l'ambiance. L'Europe de la défense, là aussi... des éléments à partir de zéro, parce que l'Europe de la défense, c'est pas grand-chose. On a un peu progressé, donc il y a... Et puis, dernier point, dans ce discours de Strasbourg, le président Macron a répété, au fond, cette idée que il faut avancer avec ceux qui le veulent et le peuvent. Alors, il a l'air de dire, on va vers une Europe à géométrie variable. Moi, ma thèse, c'est qu'on n'y va pas, on y est. On est déjà dans une Europe à géométrie variable. Mais c'est cette idée de dire l'unanimité, c'est intolérable, ça nous empêche d'avancer sur le fiscal, sur le social, sur la politique étrangère. Faut trouver la manière de contourner l'unanimité dans un contexte où, formellement, d'après les traités, faut l'unanimité pour lever l'unanimité. C'est le cercle vicieux européen.
C'est fantastique, tous ces traités qu'on passe notre vie, Banque Centrale ou autre, à contourner. On contourne les trucs.
Je termine, Nicolas. On a ouvert... On a fait quelques mesures intéressantes et on a ouvert les débats. Maintenant, c'est à la Tchéquie de prendre la suite. On va voir ce que ça donne.
Une 30, une 25 pour conclure.
Moi, je pense que ça a eu le mérite de montrer des sujets sur lesquels... Enfin, montrer que l'Europe est utile, c'est trouver des sujets sur lesquels on serait ridicule si on posait le sujet nationalement tout seul. Donc, sur le climat, par exemple, c'est pas mal la question d'homogénéiser, de donner des standards sur la manière dont les entreprises vont fournir des informations non comptables, enfin, qui rentrent pas dans la comptabilité classique sur leurs émissions carbone, par exemple. Là, effectivement, c'est un sujet sur lequel ça serait ridicule que la France le fasse toute seule. C'est bien au niveau européen, à minima, et puis on espère que ça aura de l'influence. Donc là, c'est des sujets sur lesquels on voit bien l'utilité, en fait, de faire bloc. Et donc, finalement, je trouve que le mandat de la France a servi un peu à ça aussi, à essayer d'aligner un certain nombre de sujets où on voit l'utilité de faire bloc.
Et puis bon, il aura aussi bénéficié, peut-être parce qu'il était là au bon moment, le président de la République, de ces nouvelles armes anti-GAFA qui ne reposent plus exclusivement sur la politique de la concurrence, mais qui essayent d'agir en amont. Un mot à rajouter, Isabelle Jobbazier?
Non, mais je pense que dit... c'est bien de mettre des sujets, effectivement, qui valent le coup d'être abordés à l'échelle européenne. Je pense que ça replace aussi les grands sujets qui vont nous accompagner, qui vont façonner le monde de demain, etc. Et de se dire que la bonne échelle à laquelle on doit penser ces sujets-là, c'est effectivement l'échelle européenne.
Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, Isabelle Jobbazil, Christian de Boissieu, Augustin Landier. On est jeudi, oui, on se retrouve bien demain à 9h.